France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Laurent Lafitte. Vers 19h45, le son du jour, ce sera une sérénade de Valentine Silvestrov, interprétée par Anastasia Kobekina. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à Clermont-Ferrand, pour nous faire vivre la 46e édition du Festival international du court-métrage. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Jean Guilin-Meige à la prise de son. Bonsoir Laurent Lafitte.
Bonsoir.
Vous êtes à l'affiche de la Comédie Française dans le rôle titre de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, mise en scène d'Emmanuel de Ma, c'est en alternance, hein, on est au français jusqu'au 29 avril, et puis depuis ce matin, vous êtes sur grand écran.
Non, depuis mercredi prochain.
Ah c'est mercredi, ah ouais.
Oui, c'est le 14 février. Parce que peut-être que vous, c'est une date que vous n'aimez pas.
J'aime bien le 14.
Le 14 février,
vous l'aimez bien ou pas?
Pas spécialement. Ouais. La célébration obligatoire, ça me...
Ah non, mais ça, on s'en fiche.
Ah oui, non, mais je parlais de ça, moi.
Ah oui.
Ah non, mais je vais aimer.
C'est le 14 février. C'est voilà. Dans une semaine.
C'est dans une
que
semaine.
Que sortira voilà. Le Molière imaginaire. Voilà. Film d'Olivier Py. Oui, Olivier Py, cinéaste. Je me disais, j'ai quelque chose qui ne va pas. Heureusement que vous êtes là pour me corriger d'entrée. Alors, double occasion de vous accueillir tout de même, de revenir avec vous sur quelques étapes de votre parcours, de la naissance de la vocation aux rencontres importantes. C'est de savoir un peu mieux comment vous exercez votre art. Alors, la vocation, c'est toujours la première question. Une enfance que vous dites plutôt insouciante. Vous étiez plutôt rêveur, lecteur de Grimm, Perrault, Andersen, amateur des films de Walt Disney, Peter Pan, Dumbo, Bambi. Alors, si je peux me permettre une première remarque, Laurent Lafitte, vous dites avoir été terrorisé par Bambi, mais pas par Dumbo.
Pauvre
Dumbo.
Oui, mais alors Dumbo, je sais pas d'où vous l'avez sorti, parce que Dumbo, c'est pas mon préféré. Non, j'aimais beaucoup Bernard et Bianca.
Ah.
J'aimais beaucoup l'ambiance un peu.
Avec Kevin Rudd.
Un peu sombre, Kevin Rudd, et surtout Médusa.
Oui.
Sur son vieux bateau à roues, complètement défoncé avec ses deux crocodiles. Ça, j'aimais beaucoup.
Ouais. Bon, alors si on doit parler de votre vocation d'acteur, oui. Elle est d'abord plutôt, semble-t-il, naïve, puisque vous vous imaginez pouvoir. Faire la guerre des boutons, rencontrer E.T.
Bah oui, c'est ça. Moi, je suis devant la télé, parce que mes parents m'emmènent pas beaucoup au cinéma, donc je découvre le cinéma à la télé. C'est un moment qui est assez sacré à la maison. On éteint les lumières, on se tait, plus personne fait de bruit. Et voilà, c'est vraiment le film du dimanche soir, en l'occurrence, souvent. Et c'est comme ça que je découvre le cinéma. Et moi, j'ai l'impression, quand je suis enfant, que les gens que je vois dans la télé vivent vraiment les aventures qu'ils nous racontent. Et j'ai envie de vivre des aventures. Donc c'est un désir d'aventure au départ. En fait.
Ça c'est très jeune.
Alors ça c'est oui quand même, ça c'est oui. Très jeune.
Parce qu'après quand vous allez devenir un fanatique de films d'horreur,
ouais.
Allant jusqu'à falsifier votre carte d'identité, on peut le dire maintenant,
oui,
il y a prescription.
Oui, on peut le dire, oui,
vous aviez 12 ans et vous alliez voir des films interdits au moins de 13 ans, ouais. C'est très mal. Ouais. C'était pas pour vivre dans les films d'horreur là,
non,
rassurez-moi.
En fait, je m'ennuyais, j'étais tout le temps en recherche de sensations fortes. Ah. Voilà, toujours une envie de sensations fortes, envie d'aventure, envie de dépaysement. Et j'ai eu une enfance heureuse, protégée, même privilégiée d'une certaine manière. Mais j'avais envie que les choses soient un peu plus bousculées. Et plus,
voilà. Ouais. Alors ça, vous avez trouvé votre lot. Mais vous, oui. Vous avez rapidement varié les registres. Vous passez beaucoup de temps dans les salles de cinéma, de plus en plus, pour voir... Tout style de film, c'est une cinéphilie qui prend tout ce qui passe, mais qui quand même, j'imagine, passe par un tamis. Il y a des choses qui vous plaisent davantage que d'autres.
Alors j'allais surtout voir des films américains. Et anglais aussi un peu plus tard. J'ai bizarrement découvert le cinéma français un petit peu plus tard, juste avant la vingtaine. Mais toute mon adolescence, c'était vraiment principalement le cinéma américain.
Ouais. Et l'envie d'être adulte, très tôt, vous avez dit, j'ai oublié de le citer, que vous avez hâte d'être adulte pour passer sur le plateau de Michel Pollack, fumer des cigarettes à la télé en parlant d'art ou de politique.
Ouais, c'est con, hein, c'est raté.
C'est raté parce qu'il n'y a plus Michel Pollack et qu'on ne fume plus sur les plateaux de télévision.
Oui,
et
puis que dès qu'on dit quelque chose, on se fait tomber sur la gueule.
Oui, c'est en boucle sur les réseaux sociaux. Bon, alors, vous avez échappé à ça. Et puis, quand vous êtes en seconde, vous décrochez un rôle dans un téléfilm, vous avez répondu à une annonce dans le... Ouais. Journal France Soir, ce sera l'enfant et le président de Régis Milsan, on dit Milsan,
oui,
avec notamment Michael Lonsdal. Vous avez quel souvenir de cette première fois, Laurent Lafitte?
C'est une espèce de catharsis. C'est je me dis ouais, bah c'est une révélation quoi. Je découvre je découvre la fabrication d'un film et je trouve ça complètement fascinant. Je passe mon temps sur le plateau, je te pose des questions à tout le monde, j'apprends ce que c'est qu'un raccord, le gaffeur, les marques, le clap, à quoi sert un clap, à quoi les focales, tout me passionne, tout me fascine et il n'y a plus que ça qui m'intéresse.
Et puis, j'appuie sur Avance Rapide pour dire qu'en 1995, vous inscrivez au cours Florent. Alors, choc socio-culturel, avez-vous dit, pour vous qui avez plutôt grandi dans le 16e, de vous retrouver dans ce 19e arrondissement. Oui. Mais on sait bien que ce qui est important dans les écoles sont les camarades qu'on s'y fait. Et ouais. En l'occurrence, ça va être notamment Gilles Lelouch, Guillaume Canet et puis Cécile Felsenberg qui deviendra votre agent. On va y revenir. Mais il y aura ensuite un an de tournée dans une comédie de boulevard, Croque-Monsieur, ouais. Marcel Mitois, qui avait été créé avec la grande Jacqueline Maillan, ouais. Avec Hubert Deschamps. Mais vous ne vous sentez pas encore complet. Vous dites, bon... Il faut que je fasse le conservatoire. Alors déjà, vous réussissez à y entrer, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Mais là, c'est encore un autre genre de choc socioculturel.
Alors plutôt culturel pour le coup, mais c'est vrai que quand je jouais Croque-Monsieur, j'ai découvert le Hamlet mis en scène par Chéreau. Et ça a été deux salles, deux ambiances. Et là, je me suis dit oui, c'est vrai que si c'est ça aussi le théâtre, là, il y a tout un univers qui s'ouvre à moi, qui m'intéresse énormément, et je suis peut-être en train de faire fausse route. Mmh. Je renie pas du tout l'expérience que j'ai vécue sur. J'adore le théâtre de boulevard. Mmh. J'ai regardé ça beaucoup à la télé. Je suis fasciné par des gens comme Maillan, Michel Roux, Pacôme. C'est vraiment des artistes que j'adore. Mais j'ai découvert
un nouveau continent
qui m'offrait des promesses qui me paraissaient plus plus excitante. Voilà. Et donc j'ai changé de braquet et j'ai passé le conservatoire. Ouais.
Alors le conservatoire, vous avez notamment pour professeur Muriel Mayette, pas encore Holtz. On va l'écouter. C'était sur France Culture en 2014.
Jouer, c'est d'abord physique. On oublie trop souvent ça. Jouer, c'est rentrer. C'est arriver avec son corps et donc avec ses pieds, avant de dire quelque chose. Et puis souvent, la différence entre les amateurs et les professionnels, c'est que les amateurs viennent donner une réponse sur le personnage. Ils disent, par exemple en jouant « Quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur en faisant Armande des femmes savantes ?» Ils disent « Ah ben voilà, cette fille est aigrie, elle est en colère. » Ils donnent des réponses. Alors qu'en fait, jouer, c'est porter le sens qui a été porté par d'autres avant. C'est donc essayer de s'étonner ensemble dans l'ici et maintenant de « Cette femme dit ça. » Cette femme commence par dire « Quoi ?» Et dans ce « Quoi ?», je peux entendre, par exemple aujourd'hui, l'impuissance qu'elle a. Parce que commencer par « Quoi ?», c'est ne pas être capable d'organiser quelque chose. Et c'est d'entendre ensemble ce que dit cette femme que d'autres ont entendu précédemment. C'est pas tout à fait la même activité. Et c'est là que ça devient un métier. C'est d'une certaine façon une humilité totale de porter le sens et en même temps un orgueil immense de se dire « je rentre et c'est mon corps et moi-même avec son histoire qui le portons ».
Alors Muriel Mayette-Holtz a été pour vous une rencontre importante, Laurent Lafitte. On parlera plus tard de la comédie française, mais au moment du conservatoire, c'est quelqu'un qui est important.
Oui, c'est important. C'est intéressant ce qu'elle dit sur ce mélange d'orgueil et d'humilité qu'il faut pour poser le pied sur un plateau. Mmh. C'est vrai. Et d'essayer de créer du présent plutôt que de créer de la performance ou une opinion ou de vouloir donner une interprétation. Et ça, c'est vrai que cette recherche du présent, je l'ai beaucoup travaillé avec elle. Disons que au cours Florent, j'ai appris la sincérité, ce qu'il fallait engager de sincérité dans le jeu. Et avec elle, j'ai appris d'autres choses en travaillant notamment Racine. Nous avait demandé en début d'année ce qu'on voulait travailler, et on avait choisi Racine avec elle, évidemment, et elle nous avait dit ça tombe bien parce que c'est un auteur que je connais pas très bien.
Elle en a monté beaucoup après.
Après, ouais. Mais là, à l'époque, elle nous a dit ça, alors c'était peut-être une boutade pédagogique. Mais elle nous a dit comme ça, j'arriverai pas avec plein de certitudes et on va un peu le découvrir ensemble et ce sera plus intéressant. Déjà, je trouvais ça assez brillant. Et avec elle, j'ai découvert tout ce qu'il y avait en dehors de la psychologie. Et de toute façon, c'est injouable. En tout cas, les enjeux chez Racine, notamment, sont injouables. Donc, on va pas commencer à y aller dans une espèce d'ultranaturalisme et tout axé sur la sincérité et l'émotion réelle. Et ce qui est intéressant, avec Muriel, c'est qu'elle travaillait beaucoup sur le son de la phrase, et ce que le son allait provoquer chez l'autre, et rebondir là-dessus, intégrer ce que ça provoque et répondre en fonction de ce que l'autre a provoqué. Donc c'est un jeu qui est tout le temps avec le partenaire, qui est pas dans la psychologie et qui permet à la fois d'incarner des textes comme chez Racine, la poésie d'incarner la poésie, de la rendre concrète sans casser la langue, en lui laissant sa grandeur. Et je me souviens notamment d'un matin, j'arrive devant le conservatoire et là je vois il y a un bus avec toute la classe dedans et Muriel qui a dit « Allez, on monte tous dans le bus ». Alors on monte dans le bus et en fait elle nous emmenait dans la forêt de Fontainebleau. Elle dit « On va aller travailler dans la forêt sur les rochers parce que Racine ne souffre pas les murs ». Et là, on s'est retrouvés dans la forêt de Fontainebleau à déclamer Racine. Moi, je travaillais Titus à l'époque, dans Bérénice. Et je la faisais beaucoup rire, ça m'énervait. À chaque fois, elle riait. Je me dis, mais oui, mais t'es drôle, c'est pas grave, tu peux être drôle dans Racine. Je luttais un peu contre ma nature, quoi, c'était marrant. Et après, quand on est retourné au conservatoire et qu'on a retravaillé les scènes dans le théâtre, ben, on était riche de cet élargissement qu'elle nous avait offert en allant jouer du Racine dans la forêt.
Belle leçon, ouais. Au pluriel là, avec Muriel Mariette. Mais après le conservatoire, alors en Afrique, vous allez étudier à la Guildford School of Acting à Londres. Quand on repasse là, comme je le fais très rapidement, le début du film de votre vie d'apprentissage, j'ai l'impression que vous vouliez jamais quitter l'école en fait. Vous aviez toujours envie d'apprendre.
Non, pas du tout. Ah non, j'avais pas envie
d'apprendre. Vous avez enchaîné quand même.
Oui, mais parce qu'il fallait que je m'occupe. Parce que moi, j'ai pas de travail, moi, au début. Donc, il faut que je m'occupe, voilà. Et c'est Périmonie qui disait, on n'apprend pas à devenir acteur, on apprend à répéter. Mais je crois qu'il a raison, c'est vrai. Donc ça, bon, ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que j'avais pas l'impression que j'allais apprendre à devenir acteur. Je me suis toujours senti acteur. J'ai toujours eu cette arrogance, puisqu'on en parlait avant, d'imaginer que j'étais légitime.
Vous avez jamais eu le syndrome de
l'imposteur? Non.
C'est rare, hein?
C'est
une chance.
Non, j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur, j'ai eu pire que ça. J'ai eu le syndrome du martyr, de l'incompris, de celui qui n'est pas pris parce que personne
ne voit.
C'est moins bien. Oui,
c'est moins bien,
mais c'est comme ça. J'ai eu ça. Et puis après, j'ai commencé à comprendre un peu que le problème était peut-être un peu plus différent que ce que j'imaginais. Mais c'est pas parce que j'avais envie tout le temps d'être étudiant, c'est parce que déjà, j'avais très envie de travailler en Angleterre parce que j'aime bien. Ils ont un rapport très pragmatique au métier d'acteur. Et au conservatoire, je souffrais un peu parfois de la surintellectualisation. Ou la surpolitisation du rôle de l'acteur qui pouvait me fatiguer un petit peu et le mépris du divertissement. Moi, je travaillais beaucoup Fedot, je suis rentré avec Fedot d'ailleurs, avec Fedot et Corneille. Mais moi, j'avais aucun mépris pour le divertissement. Au contraire, ça m'a toujours passionné. Et je sentais qu'il y avait un peu deux clans qui se formaient naturellement au conservatoire pour caricaturer l'intello acteur citoyen, on va dire. C'est très intéressant, sauf quand ça développe
sauf quand c'est pénible.
Des personnalités un peu arrogantes, justement, à nouveau. Et puis, voilà, ceux qui n'avaient pas peur du divertissement. Moi, j'aime bien chez les Anglais. Il y a un désir permanent d'efficacité. Voilà. Même dans le drame, il y a un désir d'efficacité. Et je trouve ça important. Je trouve qu'en France, parfois, il peut y avoir une petite complaisance. Voilà. Et donc je voulais. Et avant j'ai eu Philippe Adrien en deuxième année, qui est un metteur en scène que j'aimais beaucoup, et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui.
Grand metteur en scène, en effet. Alors à propos d'Angleterre, quand même, on va découvrir votre choix musical, Laurent Lafitte, qui s'est porté sur MacArthur Park de Richard Harris. Alors il faut expliquer ce choix.
Bah alors c'est une façon, c'est une chanson que j'ai que alors là un petit peu moins en ce moment, mais que j'ai écoutée en boucle. Mais quand je vous dis en boucle, c'est je peux l'écouter 25 fois de suite.
Mais comme elle dure 6 minutes, c'est
ouais, 7. Bah oui. Non, mais c'est quand je suis, si je suis dans l'avion, dans le train.
Ou... Ah ouais. En boucle.
Quand j'ai un peu de temps. Elle me fascine, elle me fascine, elle me fascine. Déjà parce que les paroles sont très, très bizarres. Elles sont très dures à comprendre, même quand on parle anglais. C'est très, très curieux. Je me demande s'il n'était pas perché quand il a écrit ça. Et puis, il y a plein de reprises. Donc, j'écoute toutes les versions. Il y a une version de Donna Summer qui est super. Et il y a une version de Thierry Leluron qui est complètement incroyable. Alors là, c'est plus MacArthur Park, c'est Les Tuileries. Alors, est-ce que c'est un des jardins extraordinaires de Thierry Leluron? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses qui me fascinent dans cette chanson.
Alors, j'ai une petite traduction du refrain. Le parc de MacArthur fond dans le noir. Tout le glaçage sucré et vert coule. Quelqu'un a laissé le gâteau sous la pluie. Je ne pense pas que je puisse supporter ça. Ça a pris tellement de temps à cuire et je n'aurai jamais cette recette encore.
Ouais.
Oh non. On écoute ce cinglé de Richard Harris.
For us, girl, it ran one step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and were pressed in love's hot fevered iron like a striped pair of pants. This park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. The birds like tender babies in your hands, and the old men playing checkers by the trees. This park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have the recipe again.
Dans la ville où tant d'ombres vont encore passer, le jardin tranquille pour rêver n'était plus alors qu'une île où ton image immobile me disait la symphonie. Thank you.
On est passé hein, du MacArthur Park aux Tuileries.
Vous avez fait un montage.
Alexandre Faugeron.
Très habile.
À la réalisation.
Elle est dingue, cette version de Le Luron.
Oui, il faut l'écouter en entier. Ouais. Toutes les versions. Alors, quand même, revenons à vous, Laurent Lafitte. Oui. De retour de Londres, les tournages vont commencer à s'enchaîner, notamment dans les films de vos camarades Guillaume Canet et Gilles Lelouch, mais aussi Eric Lartigot, Claude Miller, Léa Fraser. Il y a aussi des spectacles mis en scène par Gilles Dabourdé. Mon premier souvenir de vous sur scène, c'est le Petit Montparnasse, des gens. Une pièce de Zabou Breitman adaptée d'extraits de films de Raymond Depardon, de Urgence et de Faits divers, qu'elle met en scène et qu'elle joue avec vous. Très beau spectacle. Et puis, je vous revois quelques mois plus tard au Palais des Glaces, dans votre one-man show, Laurent Lafitte. Comme son nom l'indique. Là encore, c'est deux salles, deux ambiances. Oui. Ou plutôt une douzaine d'ambiances, hein, dans le second cas, parce que ce seul en scène, vous y montrez l'étendue de votre palette. C'était ça un peu l'idée ?
Je croyais que vous alliez dire de mon talent, mais non, de ma palette. Bon, tant pis.
Mais votre... vous pouvez partir.
Tant
je
pis,
comprendrai. Bon,
donc ma palette...
De votre étendue, immense talent. Bon, bah, là, voilà.
Oui, j'ai voulu m'offrir une heure et demie d'écriture déjà. Mmh. J'ai coécrit le spectacle avec Cyril Touvenin. Ouais. Et je voulais m'offrir voilà une heure et demie d'éclat d'acteur. C'est pour ça que les sketchs sont longs et c'est peut-être plus des scénettes que des sketchs sans snobisme et où les personnages prennent le temps d'être développés petit à petit et tout ça. C'était vraiment un spectacle d'acteurs, mais je le jouais en même temps que des gens. Je jouais des gens à 19h dans lequel je faisais déjà pas mal de personnages différents.
Oui, bah oui, forcément.
Et après, je filais sur mon scooter et je jouais à 22h au Petit Palais des Glaces, le one-man show. Ça, c'était une période intense.
Pour la plupart des scénettes, alors vous restiez en pantalon, chemise, mais tout se jouait dans les accessoires.
Oui.
Il pouvait y avoir le gant de latex hein, pour le médecin, l'écharpe pour l'ex-junkie, et puis une magnifique veste de survêtement pour un des sommets du spectacle qui était le comique nul.
Ah, alors, oui.
Évidemment, c'est quand même très très casse-gueule comme scène, parce que le mauvais comique faire rire avec des blagues pourries... Mm. C'est une sorte de vertige quand même.
Oui, c'est ça. Surtout qu'au début, j'avais mis au début du spectacle. Moi. Comme personne me connaissait, les gens savaient pas. Ils trouvaient ça encore plus couillu, mais bon, c'était trop. Non, là, c'était vraiment, ça devenait carrément maso et suicidaire. Donc j'ai mis plus tard. Mais l'idée, c'était que ce soit suffisamment crédible pour qu'on se dise que c'est un vrai sketch et suffisamment nul pour qu'on rie des bides que se tape l'humoriste.
Grand moment. Ça vous manque, le seul en scène ?
Pas tellement. J'aime bien. Je préfère partager le plateau avec des camarades de jeu, quand même. Non, après, c'est assez enivrant. Hein. Pendant une heure et demie, faire rire une salle. Là, en plus, le spectacle avait vraiment très, très bien fonctionné. Donc, c'est vraiment un rush de partage, d'adrénaline et de satisfaction aussi qui est assez incroyable. Mais bon, c'est quelque chose qu'on vit tout seul, quoi.
Bon, j'avais eu la chance aussi de vous voir. On revient sur Bérénice hein, quand vous étiez maître de cérémonie au Molière, à Créteil, autre grand moment. Mais on avance dans le temps. Alors,
d'accord.
Entre deux prises du film de l'autre côté du périph, assis à l'angle de la rue Richelieu et de la rue Molière, soudain, roulement de tambour, coup de fil. Qui est au bout du fil, Laurent Lafitte ?
C'est Muriel Mayette et un peu Molière puisque je suis assis à ses pieds. Et je suis au pied de sa statue, à l'angle de la rue Molière et de la rue de Richelieu.
Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Muriel Mayette ?
Elle a à me dire que une place s'est libérée dans la troupe, comme ça arrive de temps en temps. Et que si je veux l'intégrer, c'est le moment. Donc je dis, écoute, c'est marrant, je suis en train de tourner à 150 mètres de ton bureau. Je termine à 19h, donc je viens signer mon contrat dès que j'ai fini. Donc je suis allé signer mon contrat le soir même.
Vous avez réalisé quand même ce qui se passait, parce que c'est pas rien d'entrer dans cette maison.
Ouais, j'ai pas vraiment réalisé. En fait, j'étais tellement content d'y rentrer, j'ai même pas demandé avec quel rôle je rentrais, j'ai pas négocié mon salaire, rien quoi. J'ai signé, j'y suis allé bien en tête quoi. J'étais très très heureux. Je suis rentré à pied chez moi pour pouvoir bien profiter à l'air libre de ce moment. J'étais très 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 heureux, assez impressionné, intimidé, mais excité quoi.
Alors, voilà donc, depuis le 8 janvier 2012, pensionnaire de la Comédie-Française. Alors, une nouvelle forme d'école aussi, dans la mesure où vous êtes le petit nouveau, il faut faire sa place, trouver ses marques, grimper dans les échelons, jusqu'à arriver au grand rôle. Et d'ailleurs, les rôles-titres sont pour vous assez récents aux Français. Il y a eu Don Juan il y a 2-3 ans, Cyrano de Bergerac cette saison. Alors peut-être avant de parler de ce parcours dans la maison de Molière, et on va reparler de Molière évidemment dans un instant, écoutez votre administrateur général actuel, Éric Ruff, également comédien, metteur en scène, scénographe, c'était dans sa masterclass France Culture en 2017 avec Mathilde Serrel.
En tant qu'acteur, effectivement, la déconcentration est une clé. Quand j'étais jeune pensionnaire, j'étais quelqu'un d'extrêmement sérieux, donc ai-je beaucoup changé. J'étais persuadé qu'il fallait savoir son texte au cordeau, bafouiller était une honte absolue, c'était péché. Donc je faisais ce qu'on appelle des italiennes, je me remémorais mon texte incessamment avant de rentrer en scène, et je voyais des sociétaires qui racontaient des blagues aux pompiers de service, qui stoppaient la blague, qui rentraient jouer un bout de tragédie, et qui revenaient en coulisses pour finir la blague. Et je trouvais ça honteux, je me disais mais comment peut-on faire quelque chose, quel irrespect par rapport au public, etc. J'étais très, très idiot, et au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était ça la clé et qu'il faut, ne pas se concentrer. Alors il y a tout un travail à faire pour que la maîtrise soit là, mais une fois que la maîtrise est là, le hic et nunc, la vie, le théâtre, pourquoi les gens viennent au théâtre, c'est quand même pour voir des éclats de vie. Donc à partir du moment où on prépare tout, il n'y a pas d'éclat de vie. Il faut arriver avec une partition, mais se permettre absolument toutes les appoggiatures, et puis laisser rentrer les tout du public, laisser rentrer le fait que le camarade ne va pas dire la phrase comme d'habitude, ça s'appelle le jeu simplement, et ce mystère-là et cette clé-là de non-concentration, elle est forte, oui, elle est belle.
Alors, comment entendez-vous, comment comprenez-vous ce que vient de dire Éric Ruff, Laurent Lafitte? De quelle façon, pour vous, la Comédie-Française a contribué à renforcer, améliorer votre immense talent de jeu d'acteur?
D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Éric. C'est vrai que la déconcentration, c'est très très important.
Toujours être d'accord avec le patron.
Oui.
Non, je plaisante.
Mais là, en l'occurrence, oui. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est très important, mais la déconcentration, c'est quand on maîtrise très très bien son outil. Et l'avantage de cette maison, c'est qu'on est tout le temps en train de travailler, et qu'au bout d'un moment, rentrer sur un plateau, ça reste quelque chose d'important, mais ça devient quelque chose de normal. Et c'est dans cette normalité qu'on peut se mettre au bord du gouffre. Et par la déconcentration, et c'est comme ça qu'on crée du présent. Ouais. Et qu'on est tellement sûr de soi qu'on sait que les choses vont se produire, et elles vont se produire peut-être d'une manière un tout petit peu différente de la veille. C'est ça qui va créer du présent, qui va faire que le partenaire va également vous répondre d'une manière différente parce que vous lui avez adressé votre réplique différemment. Ouais. Et qu'on fait du spectacle vivant. Et la concentration, c'est vrai que c'est un peu un piège. Ouais. C'est un peu un piège de bon élève. Ouais.
Alors, jouer Cyrano, comme vous le faites ces temps-ci. Alors, déjà, il y a forcément des dangers face à un monument pareil, mais il y a aussi du plaisir. C'est quoi les dangers, les plaisirs?
Ah ben, il y a surtout du plaisir quand même. J'avoue que c'est un rôle extraordinaire. Je souhaite à tous les acteurs d'avoir à traverser ce rôle un jour. C'est du concentré de théâtre, c'est d'émotion pure, de poésie, c'est extraordinaire. Oui, j'ai eu peur au début. Justement, on parlait de la déconcentration. La déconcentration, j'ai pas pu la mettre en place tout de suite. Je commence là depuis une petite dizaine de représentations, parce que j'ai moins peur de créer de l'accident ou de laisser les choses venir et être surpris moi-même. Mais ça a mis plus de temps que d'habitude.
Alors, je sais pas si certaines ou certains de vos camarades du Français ont déjà vu le film d'Olivier Py, le Molière imaginaire, qui sort mercredi prochain dans les salles. Et risque d'être un petit peu surpris. Comment est-ce que Olivier Py vous a présenté ce projet-là?
Il m'a envoyé le scénario, tout simplement. Et puis c'est vrai que c'est un scénario qui est très
vous
écrit.
Vous n'aviez pas travaillé ensemble, hein?
On n'avait jamais travaillé ensemble, non, jamais, on ne se connaissait pas. Ouais. Il m'a envoyé le scénario, j'ai lu, puis j'ai adhéré tout de suite au projet, et à l'écriture, et au principe du plan séquence, et de faire le film totalement à la bougie, d'assumer à fond le baroque, le lyrisme, la grande phrase métaphysique. J'ai adoré le scénario.
Alors effectivement, il faut expliquer ce parti pris formel d'abord, pour dire qu'en dehors de une séquence finale. Ce film est un grand plan séquence. Alors, il faut toujours expliquer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de montage. La caméra, en l'occurrence, circule d'un espace à un autre sans s'arrêter pour filmer l'action en temps réel. Pas de montage. Ça réduit un poste un peu, mais bon.
Il y a quand même du montage, parce qu'il y a quand même plusieurs plans séquences mis bout à bout.
Ouais. Mais de fait, vous avez dû répéter le film comme un spectacle, parce qu'il y a les déplacements spécifiques au décor complexe, hein, qui est celui du cinéma. Mais vous pensez que ça produit quoi dans le jeu de...
Le plan séquence, ça crée une tension supplémentaire, parce que quand on démarre une prise et qu'elle va durer 9 minutes, c'est très inhabituel au cinéma, quoi. Donc ça crée une tension, mais qui fédère les interprètes, parce que notre angoisse, c'est presque plus de planter l'autre que de se planter soi-même. C'est d'arriver à la 8e minute et 45 secondes et de planter sa dernière réplique ou son placement et de foutre en l'air tout le travail qui a été fait par soi et par ses partenaires. Et pour peu que ce soit un peu la prise magique, c'est foutu, faut recommencer, quoi. Donc il y a cette tension supplémentaire, mais qui, je dirais, dramaturgiquement est très cohérente avec le film, parce qu'on est dans la dernière heure et demie en temps réel de Molière, et il y a plein d'urgences différentes de sa vie. Il est en train de jouer le malade imaginaire, il est en train d'essayer de finir la pièce, et il y a plein d'urgences à ce moment-là. Il y a son urgence à lui, l'urgence de voir le roi arriver qui n'est pas là, l'urgence de sa femme, de lui faire signer une renonciation pour qu'il puisse être enterré de manière chrétienne, l'urgence des comédien de se dire mais que va devenir la troupe une fois qu'il sera plus là. Voilà, il y a plein d'urgences et celle du plan séquence a nourri beaucoup cet enjeu-là.
Vous avez eu quelle sensation en découvrant vous le film pour la première fois dans son déroulé réel, là, de celui que voit le spectateur?
Pendant les 5 premières minutes, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce film, sans savoir si j'aimais ou pas. Je dis, ah, tiens, c'est fou, c'est curieux. Et plus ça avance, plus j'étais complètement pris dans cet objet, quoi. Et ça m'a rappelé plein de choses que j'adore notamment dans le cinéma italien. Chez Fellini ou
on pense au dernier Casanova.
Oui, complètement.
Il y a un gros budget poudre, il faut dire. Je parle de celle qu'on met sur le visage.
Bien sûr, aucune autre n'a circulé. Oui, il y a un gros budget poudre, il y a un gros budget bougie, il y en a 1000 par jour. j'adore le film.
On est comme devant un objet hybride, c'est du cinéma mais qui est comme le temps d'une représentation théâtrale. Même si tout passe par l'objectif de la caméra, alors vous l'avez dit, bon, c'est un peu de la triche, puisque les choses sont collées, mais du coup, ça se joue comme du théâtre, comme du cinéma, ou c'est un entre-deux ?
Non, ça se joue comme du cinéma. Après, il y a les passages très courts, d'ailleurs. On ne voit pas beaucoup Molière jouer le malade imaginaire, mais il y a quelques passages. Alors là, on s'était dit comment on jouait à l'époque, quoi. Qu'est-ce que c'est de jouer au XVIIe. A priori, Molière était plutôt partisan d'un jeu un petit peu plus sincère et naturaliste que ce qui se faisait à l'époque. Ça, on a des traces concrètes de ça. Et puis lui-même dans ses textes, comment il parle des acteurs. Mais sinon, le film, tout ce qui n'est pas du théâtre dans le film, et c'est les trois quarts du film, c'est pas du tout du théâtre. Et c'est pas du tout du théâtre filmé.
Non.
La réflexion d'Olivier, elle a été cinématographique en permanence. On a tendance à croire que parce que ça se passe dans un théâtre et parce que c'est dans un plan séquence, on est dans une forme théâtrale. Mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est vrai que le théâtre, c'est un plan séquence. Mais au-delà d'être un plan séquence, c'est surtout un plan large et fixe. C'est surtout ça le théâtre, plan large et fixe, et le spectateur fait ses gros plans, le spectateur fait son découpage. Mais à partir du moment où on est en plan séquence, on doit toujours décider de qui on monte, de qui est off, qui est in, comment on va servir d'un miroir pour faire un champ contre champ qu'on ne peut pas découper. Donc la réflexion, elle est 100% cinématographique en permanence. Donc pour moi, c'est vraiment un objet de cinéma. Il a de la théâtralité, notamment dans l'écriture, parce que c'est l'écriture d'Olivier, et puis c'est une époque qui s'y prête. Mais c'est vraiment un objet de cinéma.
Alors, cette différence entre théâtre et cinéma pour les interprètes, c'est une question qui est aussi ancienne que l'invention même du cinéma. On va écouter un collègue à vous en parler. C'était à la radio le 20 janvier 1963. C'est Louis de Funès, au micro de Georges Laurier.
Le théâtre, on est notre maître et on jouit tous les soirs avec des réactions du public, on est content, on devient un autre homme. Et puis on arrive à monter, enfin on monte comme une mayonnaise, on se monte comme une mayonnaise, on démarre à zéro, on termine à 100.
Oui.
Ça, c'est une excitation, enfin c'est formidable.
C'est un échange avec la salle.
Ah, c'est une partie de balle très amusante. Et puis le cinéma a ses grands moments, quand le film sort et que vous êtes bien, donc on retrouve la même chose. Mais il a ses grands moments... À la réalisation, parce que le metteur en scène, c'est à lui à vous communiquer ce que la salle ne vous communique pas, parce qu'elle est pas telle. Lui, c'est votre seul spectateur qui rit de ce que vous faites, qui vous encourage, qui vous chauffe à blanc, et on a les mêmes joies avec un très bon metteur en scène. Et si le film est comique, et si un acteur est mauvais, comme pareil, la même chose au théâtre, si l'acteur est mauvais, le critique devrait ne pas incriminer l'acteur, mais dire c'est le metteur en scène qui est mauvais. Remarquez dans les critiques, on dit toujours, le critique au théâtre, par exemple, un tel est mauvais, l'autre est acheter au panier, l'autre d'acheter au chien, nanana, l'autre est très bien, la pièce est mauvaise, mais la mise en scène est à droite. Et bien c'est faux, puisque c'est le metteur en scène qui est le responsable. On devrait commencer par dire le metteur en scène est un cochon, mais il est très mauvais lui. Et c'est le seul responsable de l'acteur qui est mauvais.
Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Lafitte?
Je suis pas complètement d'accord.
On peut ne pas être d'accord avec Louis de Funès.
Bah, oui, bien sûr. Mais déjà, vous avez dit un collègue, Louis de Funès.
Ah ouais?
Ah bah oui, ça me fait plaisir.
Talent immense.
Non, c'est pas ce que je voulais dire, le simple fait de faire le même métier.
Je l'ai fait exprès.
Si vous m'aviez dit ça gamin, j'aurais été content. J'allais être collègue de
Funès. Là, vous êtes content maintenant.
Bah oui, collègue de Funès, ça me fait plaisir. Mais non, je pense que déjà, les metteurs en scène sont beaucoup critiqués, quand même.
Oui, ça a changé par rapport à son époque, peut-être.
Oui, peut-être. Et puis peut-être que lui, il parlait du théâtre de boulevard.
C'est comme la place du metteur en scène au cinéma.
Oui, c'est vrai. Et puis le théâtre de boulevard, c'est un peu différent aussi. C'est vrai qu'on s'adresse plus aux interprètes, peut-être que.
Mais c'est un metteur en scène et. Ben, vous, ça ne passe pas, vous le trouvez pas bon, pas bonne, hein, parce que la question du genre ne se pose pas. Comment être bon ?
Ben, ça aide pas, c'est sûr, ça n'aide pas. Ce qu'il faut, c'est au moins que... Alors, moi, ça m'est pas arrivé. Il y a des metteurs en scène qui m'ont pas su trouver les mots pour m'aider, mais il y en a pas qui m'ont empêché de jouer.
Vous n'êtes jamais retrouvé dans de la galère en vous disant qu'est-ce que je fais ici,
non,
comment m'en sortir?
Non, bon, jamais, bah, jamais. Alors moi j'ai fait pas mal de premiers films et je vois, mais d'ailleurs c'est pas que sur les premiers films d'ailleurs, mais il y a pas mal de metteurs en scène qui ne savent pas parler aux acteurs parce que c'est mystérieux l'acteur. Comment, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Est-ce qu'il faut beaucoup lui dire ou pas? Ou juste un mot? Là, en ce moment, je tourne le film de Guillaume Niclou. Alors, c'est marrant parce qu'il demande jamais les choses directement. Il vient, il fait pas beaucoup de prises. Et puis, il vient comme ça, discrètement. Il dit, peut-être qu'à ce moment-là, il est peut-être un petit peu plus ému par ce qu'elle vient de lui dire. Je sais pas, peut-être. Et il part. Ok, donc on intègre l'indication, mais c'est jamais une demande. Il y a pas la pression de la demande. Voilà. Bon, après il y a des metteurs en scène qui savent plus ou moins habilement s'adresser aux acteurs.
Ouais, Jean-François Sivadier qui était là avant-hier disait que s'il n'avait pas été acteur lui-même, il aurait jamais pu être metteur en scène.
Ah oui.
Ouais. Parce que sachant ce que c'est que d'être comédien, il pouvait.
Oui, c'est vrai. Oui. Et, alors c'est aussi, ça peut être piégeant aussi parce que parfois on a tendance à les acteurs qui sont également metteurs en scène, ont tendance à montrer comment eux le joueraient. Et ça n'aide pas forcément.
Non, mais il parle plutôt de façon d'entrée. Oui.
Mais Sivadier est un artiste génial.
Ouais, on est d'accord. Ouais. Pour évoquer peut-être à nouveau vraiment le cinéma, alors vous avez tourné dans les films dans des registres très différents, Laurent Lafitte. Pour évoquer mes préférés, je pourrais citer Papa ou Maman de Martin Bourboulon, Paul Sanchez est revenu de Patricia Mazui, Chaos de Fabrice Gobert, Elle de Paul Verhoeven. Il y a eu tout récemment la série Tapir, réalisée par Tristan Seguela. On voit que tous les registres vous conviennent, mais ça, on en revient à votre immense talent. Et je me demande au fond, si vous n'avez pas aussi besoin de tous ces registres pour votre propre équilibre, si votre bonheur ne se trouve pas dans la variété des rôles.
Si, complètement. La variété des rôles, la variété des genres, la variété des univers. Je m'ennuie très vite. Je déteste les chapelles. Et j'ai tout le temps besoin de changer. J'ai besoin de changement tout le temps, ce qui peut être un problème. Mais c'est oui, c'est vrai. Et j'ai la chance surtout de recevoir des propositions parce que je ne suis qu'interprète.
C'est le parcours qu'on vient d'évoquer qui permet ça. C'est parce que vous avez su montrer.
Oui, sûrement. Non, mais sûrement, oui, c'est vrai. Et puis, c'est parce que moi aussi, en tant que spectateur, je n'ai pas de snobisme. J'aime quand les choses sont bien faites et quand elles me touchent, et je peux être touché par des choses très différentes.
Alors, on va évoquer une autre facette de vos talents, Laurent Lafitte. On va d'abord écouter un court extrait de l'entretien de Guillaume Canet sur France Inter en 2012.
Le nombre d'acteurs, par exemple,
qui vont faire des prises totalement différentes d'une prise à l'autre en jouant quelque chose totalement différent. C'est justement dans l'espoir que le metteur en scène après, quand il va faire, excusez-moi de cette métaphore qui est sûrement un peu trop culinaire, mais quand il va faire justement son montage et sa petite cuisine, donc justement, va prendre ce qu'il va y avoir de mieux. Et moi, j'aime le tournage comme ça, comme quand je dis faire mes courses, c'est-à-dire de prendre tout ce que je peux prendre qui me plaise, qui me séduise, tout ce qui peut m'émouvoir et qui fait que je vais faire de ça. Après, je vais essayer de fabriquer ce film. Maintenant, ça ne veut pas dire que le film n'est pas pensé, parce que j'arrive tous les matins avec une feuille que je distribue à la script, à l'ingénieur du son, au premier assistant, au chef-op, où il y a tout le découpage, plan par plan du film. Donc ça veut dire que je sais exactement ce que je tourne. Je viens pas non plus en disant, allez, bon, bah, faites n'importe quoi et puis on verra au montage. Mais j'aime tenter des choses, j'aime avoir des accidents, j'aime surprendre les acteurs en plein milieu d'une prise, en leur balançant une musique qui n'était pas prévue, faire des choses qui vont dégager ou qui vont en tout cas... faire quelque chose qui va pouvoir les surprendre ou les animer d'une autre émotion. Et voilà.
Alors bien sûr, le succès des Petits Mouchoirs, réalisé par Guillaume Canet, a été un moment important dans votre parcours, Laurent Lafitte, de par son immense succès public. Mais au-delà de ça, et à l'aune de ce que vient de dire Guillaume Canet, tourner avec lui, qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Déjà, c'est la première fois que j'étais sur un tournage du début à la fin, parce que jusqu'à présent, j'avais toujours eu 2-3 jours par-ci par-là. C'est très dur d'ailleurs de débarquer sur un tournage quand on a un petit rôle de quelques jours. Et là, j'ai découvert en fait le confort du rôle principal et que c'était vraiment beaucoup plus facile. Bah oui, parce qu'on le plateau devient un environnement familier. On est en confiance, donc forcément, on donne de meilleures choses. On s'en sont plus libres de proposer des choses. Et sur le plateau de Guillaume, j'étais très très en confiance et très très embarqué par son énergie et sa force de travail. Je me suis vraiment senti porté par lui pendant ce tournage. Et c'est le premier metteur en scène, réalisateur qui m'a fait confiance sur un rôle important.
Alors, Guillaume Canet évoque aussi les variations d'une prise à une autre. Alors j'y reviens parce que vous avez dit ne pas avoir fait assez de variations pour le film que vous avez réalisé, Laurent Lafitte, concernant les plans où vous êtes, oui. C'est-à-dire qu'ils sont quand même assez nombreux. Vous êtes retrouvé fort dépourvu au montage ?
Bah oui, parce que j'avais pas de metteur en scène, quoi. Et moi, j'ai besoin d'un metteur en scène pour un metteur en scène qui voit des choses que moi je ne vois pas. J'aime bien cette image tout le temps du metteur en scène qui est en vue aérienne au-dessus d'une forêt, donc qui voit plein de choses que nous on voit pas quand on marche dans la forêt, et lui en même temps ne voit pas plein de choses que moi je vois en marchant dans la forêt. J'ai besoin des deux visions. Et là j'avais pas la vision aérienne, quoi. Ça m'a manqué. Ouais.
Ça veut dire que si vous réalisez à nouveau, parce que l'envie est là, oui. Il faudrait que vous soyez pas devant la caméra.
Il faudrait que je joue pas dedans, ouais. Ouais. Ou que je trouve un système pour avoir quelqu'un en qui j'ai confiance, qui soit uniquement sur la direction d'acteur et qui me dise tiens, essaie peut-être un petit peu plus comme ça. Ou...
Appelez Guillaume Niclou. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de notre entretien. Le temps de rappeler que vous êtes en ce moment à l'affiche de la Comédie Française dans le rôle titre de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, mise en scène d'Emmanuel Domas. C'est jusqu'au 29 avril en alternance. Alors c'est complet, mais on peut avoir des places.
On peut toujours avoir des places.
Il faut y aller.
Les dernières minutes, à 19h. Et puis il y a le pâté live. La pièce a été filmée et elle va être diffusée dans plus de 200 cinémas. Jusqu'à un peu avant fin février.
Et puis mercredi prochain, sort en salle Le Molière imaginaire d'Olivier Py. Merci Laurent Lafitte.
Merci beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Rares sont les villes qui nourrissent autant l'imaginaire que Venise. La violoncelliste Anastasia Kobekina ne s'est pas trompée en dédiant tout un album à cette ville qui la bouleverse. Loin du cliché de la carte postale qui fige le temps dans un instantané magnifié, Anastasia Kobekina a construit un programme pluriséculaire qui va de Claudio Monteverdi à Brian Eno et John Hopkins. La ville de Venise devient ainsi le terreau d'une mémoire musicale dans Venice, titre de l'album paru sur le label Sony Classical. De cette mémoire, plus métaphorique qu'historique, la violoncelliste russe retient un parcours sensible qui pourrait passer par l'écoute d'une sérénade au cours de ce qui pourrait bien être une douce soirée d'été. Cette Abendserénade, composée par le pianiste ukrainien contemporain Valentin Silvestrov, c'est notre son du jour. C'était Abendserénade d'Anastasia Kobekina, une composition de Valentin Silvestrov.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Eh bien bonsoir Arnaud, je suis toujours à Clermont-Ferrand pour la 46e édition du Festival international du court-métrage. Mais ce soir, je vous propose d'entrer directement en salle pour découvrir le court-métrage de Frédéric Bellier-Garcia. Alors oui, hein, on le connaît aussi comme metteur en scène, vient d'ailleurs d'être nommé directeur de la commune à Aubervilliers. Mais là, il est présent ici à Clermont-Ferrand pour un court-métrage avec notamment comme acteur Stéphane Roger. Je vous propose d'aller voir ce film et puis après de rencontrer le réalisateur Bellier-Garcia.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Paul.
Quel est votre âge, Paul ?
76 ans.
94 ans. Et à moi.
Alain.
Bonjour Alain. Quel âge avez-vous ?
75.
Est-ce que vous avez déjà eu une expérience ?
Aucune.
De l'expérience dans la figuration ?
Oui, nombreuses, je peux dire, oui.
Vous avez déjà de l'expérience dans la figuration ?
Non.
Tournez votre visage d'un côté puis de l'autre, s'il vous plaît. Voilà, et puis de l'autre côté, s'il vous plaît. Puis à droite. Très bien, extra, merci. Et dernière chose, est-ce que vous pourriez me faire comme si vous entendiez une voix ou un son très très fort, très très aigu à l'intérieur de votre... Frédéric Belligarsa, bonjour.
Bonjour.
Nous sortons
bonjour.
Juste de la séance, nous venons de voir votre court-métrage. Peut-être pour commencer, est-ce que vous avez l'habitude de participer à ce festival de court-métrage de Clermont-Ferrand ?
Non, mais en fait, j'ai fait deux court-métrages, un l'année dernière et un cette année. Les deux ont été sélectionnés.
Ah oui.
Oui, voilà. Donc c'est ma deuxième venue. Voilà, j'adore ça.
Alors, on vous connaît... Plutôt, j'allais dire, ou aussi comme metteur en scène, vous venez de prendre la direction de la commune il y a peu de temps. Quels sont les liens pour vous entre votre pratique du plateau et une pratique comme le court-métrage ?
Je suis pas sûr que c'est un peu. Je dirais que le court-métrage me venge un peu du théâtre parfois. Oui, que c'est un art tellement différent, comme ça, de raconter une pensée de manière concise et. Voilà, une pensée qui peut être atmosphérique ou didactique ou militante, mais est une pensée, quoi, comme un élément atomique de l'esprit qu'il faut arriver à présenter. Contrairement au théâtre, où il faut donner place un peu à la complexité des choses, avec du temps, de la longueur. Voilà, donc c'est un autre... l'âme fonctionne différemment dans les deux.
Alors différemment, mais pourtant dans ce court-métrage, vous parlez de théâtre, enfin d'opéra, ouais. Et puis on retrouve Stéphane Roger. Vous pouvez nous le pitcher en quelques mots, ce court-métrage ?
Oui, je dirais que c'est un court-métrage sur l'obsolescence de l'homme, en tout cas, ou d'un homme, comme ça, qui est à un moment de son parcours fatigué et qui ne s'est pas encore rendu compte que la partie était un peu finie. Tant socialement que sentimentalement, et qui s'engage comme figurant, parce qu'on cherche à l'Opéra de Marseille un figurant pour jouer le roi qu'on doit tuer dans Macbeth, et comme un figurant un peu inattentif, à travers la rumeur de cet opéra, il va arriver à la lucidité, une lucidité sur lui-même, voilà, qu'il n'avait pas par ailleurs.
Alors, qui dit compétition ? 10 jurys, il y en a plusieurs cette année au Festival de court-métrage. Un jury national, un jury international, des jurys jeunes, des jurys queer. Et là, justement, il y a une séance qui vient de se terminer. On va essayer de rencontrer une des membres du jury cette année, Irène Drezel, la musicienne et productrice de musique. Je la vois dans le hall, là. Je crois qu'elle nous attend. Bonjour.
Bonjour.
On vous attrape, vous venez juste de sortir d'une séance. Comment ça se passe depuis ces quelques jours que vous êtes dans le jury ?
C'est super. Il y a je trouve que les quatre qu'on a vus, c'est très très qualitatif.
Est-ce que c'est un format qui vous semble intéressant artistiquement ?
Artistiquement, je me pose parfois des questions. C'est difficile de dire en peu de temps tout ce qu'on veut dire. Mais en termes de timing, je trouve ça vraiment très très bien. J'ai toujours pensé, moi je fais partie des gens qui pensent qu'un film d'une heure 20 ou 1h30, c'est trop long. Et j'aime bien les... Voilà, je trouve qu'après, il y a des courts-métrages, ça peut aller jusqu'à 50 minutes. Ici, je crois que le maximum, c'est 45 minutes. Mais voilà, c'est un exercice un peu différent. Mais,
Merci beaucoup. On ne peut pas vous demander encore si vous avez des coups de cœur ou quoi, donc je ne peux pas encore vous poser la question, mais il y en aura à la
c'est
fin.
C'est trop court. Voilà, c'est trop court. Et puis, il faut le temps, la distance, voir si on repense au film, si voilà, il y a le cerveau aussi qui a besoin de se reposer. Il y a des choses qui émergent avec le temps, souvent.
On va vous laisser... travailler, reprendre vos activités de jury. Merci beaucoup.
Avec mon petit carnet, merci voilà. À vous.
Bonjour, je vous vois juste sortir de séance. Vous faites partie d'un jury de jeunes ?
Oui, je m'appelle Suzon, je viens de Bretagne, du Morbihan. Et cette année, je suis dans le jury international du Festival de Clermont.
Alors, en quoi ça consiste, votre rôle ?
Eh bien, on est 5 dans le jury. On vient un peu de partout. On ne fait pas forcément des études de cinéma. Et donc on regarde toutes les compétitions internationales sur toute la semaine et puis après on va décerner un prix au film qui nous a le plus plu.
Alors pour l'instant, le festival a commencé depuis quelques jours, donc vous avez déjà commencé à regarder des courts-métrages. Est-ce que entre vous, les discussions sont déjà vives? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous allez argumenter?
Ça dépend. Pour l'instant, on a déjà vu une bonne trentaine de films, si je compte bien. Et à chaque fois, après chaque séance, on essaye d'avoir un petit débrief parce que, enfin, on va regarder, je crois, une soixantaine de films au total. On est plus ou moins d'accord. Il peut y avoir des séances où on est d'accord sur tous les films. Enfin, on a à peu près les mêmes ressentis. Il y a des fois, c'est un peu plus différent. Il y a des avis qui divergent un peu, mais justement, c'est bien parce qu'on peut donner chacun notre avis. Il y a une vraie écoute entre nous, donc ça, c'est important, je trouve. Et puis, ouais, on se laisse parler, on écoute les autres, on donne des arguments. Quand il y a des films qu'on veut défendre, on essaye de les défendre, mais sans jamais imposer nos choix aux autres, parce que le but, c'est vraiment d'avoir un choix commun pour être chacun content du prix qu'on va décerner.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Je vous croise là dans les couloirs de la Maison de la Culture. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi venir au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand?
Alors je suis Emmanuel Thomas, je suis directeur de casting en région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi chargé de figuration. Et venir à Clermont-Ferrand parce que j'habite à Rouen, à une heure de là, que le festival est un festival que j'apprécie depuis 5-6 ans. Et je viens accompagner une amie qui est réalisatrice, qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle Montréal en deux et qui est dans la sélection pour le prix de la presse de Télérama.
Et pour un professionnel, c'est important d'être ici? C'est aussi un endroit de réseau?
Alors tout à fait, ça permet de repérer de jeunes acteurs en devenir dans les courts-métrages. Et puis ça permet aussi, oui, de faire le réseau. Il y a notamment des dîners avec la région, il y a des rencontres aussi avec des producteurs qui potentiellement vont faire des longs après. Et du coup, c'est ces rencontres informelles qui sont hyper intéressantes aussi. Et on fait toujours... des fois, il est plus facile de parler d'un projet autour d'un verre que dans un bureau. Oui. Voilà.
Je vous laisse, que je crois que vous avez une séance.
Ouais, tout à fait, celle de 19h.
Merci
la
beaucoup.
La nationale, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes présent ici au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et comment le CNC participe à l'aide de production des courts-métrages?
Alors, on est présent ici, évidemment, parce qu'on a une grosse, grosse activité de soutien en court-métrage. C'était une des premières formes soutenues par le CNC historiquement. Chaque année, c'est à peu près 15 millions pour le CNC, pour le secteur du court-métrage, de l'écriture jusqu'à la diffusion. C'est évidemment un soutien à l'émergence, au renouvellement de la création, mais aussi au renouvellement des publics, puisqu'on sait bien que les jeunes gens qui font des films sont aussi regardés par d'autres jeunes gens, donc tout ça c'est un cercle vertueux, voilà.
Est-ce qu'il y a selon vous une appétence renouvelée aussi du public sur cette forme du court?
Alors oui, puisqu'on va montrer nos chiffres jeudi, et là la diffusion des courts-métrages, que ce soit en salle, en plateforme, en télévision, sur tous les supports, c'est quasiment plus 60% depuis, on a retrouvé avant la crise, on a atteint des niveaux historiques. Donc oui, il y a une appétence, et pour tous les genres, que ce soit la fiction, le documentaire, l'animation, il y a vraiment une appétence aussi de la jeune génération. Ouais.
Oui, donc, qui est peut-être plus habitué au format court aussi.
Absolument.
Où est-ce qu'il se situe le Festival de Clermont-Ferrand, justement, dans ce paysage des courts-métrages en France et à l'international?
C'est la première manifestation mondiale dédiée aux courts-métrages. Donc c'est un endroit à la fois extrêmement important pour le marché, qu'il soit français ou international, mais aussi sur une implantation locale, régionale. Enfin, il suffit de voir les gens qui sont dans les salles, qui viennent d'absolument partout.
Et files d'attente devant les salles.
Files d'attente devant les salles, et qui ne sont pas que des professionnels, qui sont aussi du grand public local, régional, avec un attachement et une curiosité sans cesse renouvelée. Donc ça, c'est un endroit important pour nous.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Demain, Arnaud, direction Brest pour le festival Longueur d'onde dédié à la radio et à l'écoute.
Enfin, je vais vous croiser quelque part. Merci Marie, à demain. « Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Bérénice Oursouregaray.